Ok, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais avoir des prétentions plus modestes que ce que notre cher directeur a dit. On va plutôt faire une étude précise sur est-ce que sur la place de la guerre. Voilà. C'est-à-dire comment aborder la guerre. Est-ce que c'est la guerre, c'est quelque chose de positif? C'est quelque chose de négatif? Et en particulier la question, est-ce que à l'époque du Mashiach, il y aura toujours des guerres? Et cette question est abordée dans la Gemara, dans le traité Shabbat, Samer Gimel Amud Aleph. Et après on verra encore des développements. Il me semble que c'est nécessaire d'aborder cela, parce que nous sommes dans une culture extrêmement violente, ou par exemple des jeux vidéo extrêmement violents, on doit tuer le plus de gens possible sur des jeux vidéo, on doit les écraser, les crabouiller, et dans la vie par contre, il faut être contre la guerre, n'est-ce pas? Oui, la guerre c'est pas bien, bon. Alors on sait pas trop comment se positionner. Évidemment, je pense qu'ici à l'école Beth Aharon, tout le monde est d'accord avec Mélenchon, comme quoi les pauvres Palestiniens et qu'il faut faire il faut chercher la paix à tout prix. Mais on sent qu'il y a du mensonge là-dedans. Et comment positionner, comment analyser les choses? Alors les Chachamim abordent clairement. Dans une Gemara, dans le traité Shabbat, je vous ai fait une photocopie. Il est possible que j'en ai fait 20. Donc, là, par exemple, sur ce point, vous pouvez copier sur le voisin. Vous avez le droit de copier. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aura, on vote? Est-ce qu'à l'époque de Mashiach, il y aura après, parce qu'on sait qu'avant la venue du Mashiach, il y aura plein de guerres, il y aura la fameuse guerre de Gog-Magog. Je ne suis absolument pas habilité de savoir si actuellement nous sommes dans la période de Gog-Magog. Je ne sais pas. Hein, alors là, je ne sais pas s'il y a une personne qui sait sur Terre aujourd'hui. Mais par contre, on voit des psukim de plusieurs prophètes que avant la venue du Mashiach, il y aura beaucoup de guerres. Ma question, est-ce qu'après la construction du troisième Betamidash, est-ce qu'après qu'il y aura les temps messianiques, est-ce qu'il y aura encore de la guerre? On vote, hein, messieurs.
Après la venue du Mashiach, il y aura la guerre?
Oui. Ouais. Oui, il y aura après. C'est quoi ton argument?
Parce que David Ameller, il y a pas... Ah, après Shlomo Ameller, il y a bien eu des guerres. Non?
Non, mais je crois que Shlomo, c'était le Mashiach.
Non, mais après le Betamidash.
Non, mais le troisième Betamidash.
Ah, du Mashiach, après
le Mashiach. Ah, après le Mashiach.
Non, il n'y aura pas.
Monsieur?
Non, il n'y aura pas.
Alors, là, devant, il n'y aura pas.
Il n'y aura pas.
Ah, qui?
Je pense qu'il y aura, mais...
Oui, pourquoi?
Justement, il y a plein de gens qui disent que la Mashiach, on aura genre tous les Yehudim qui seront réunis en
Eretz Israël,
et encore une fois, il y aura les guerres pour la terre. Donc justement, il y aura à plus forte raison encore plus de guerres.
Non, oui, mais ça c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog Magog. Effectivement, les commentateurs expliquent que lorsque tous les Bnei Israël reviendront, il y aura la construction du Beth Amikdash, toutes les nations s'uniront pour raser Israël. Et là, ça sera, on pourrait dire, le jugement dernier, comme on pourrait dire, mais après ça, je veux dire.
Il n'y aura pas de guerre, puisque on sait très bien que Yerushalayim va s'étendre sur toute la terre, et que la terre, et que Israël va...
Elle va être dominée.
Quoi? Non, ouais, Yerushalayim sera toute la terre, et Israël va... Et le pays d'Israël sera... Enfin, le monde va s'agrandir.
Ok. Alors, regardez. Je vous ai passé la photocopie. Samer Gimel Amud Aleph. Alors, la question est la suivante. Regardez. Lo yetse aish, lo besaif,
Vélo Bakeshet, Vélo Betris, Vélo Beala, Vélo Beromar, Vim Yatsa, Chayav Khatat. Rabbi Eliezer Omer, Tarshitin en Lo. וחכמים אומרים, אינן אלא לגנאי שנאמר, וחיטטו חרבותם לאיטים וחניתותיהם למזמרות. ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. פוינט.
Donc on est Shabbat. Est-ce qu'on peut sortir Shabbat avec une épée? Est-ce qu'on peut sortir avec une lance? Est-ce qu'on peut sortir avec un bouclier? Est-ce qu'on peut sortir avec une massue? Alors, évidemment, on n'est pas dans un cas de picouar nefesh. On n'est pas dans un cas de picouar nefesh. Prenons un exemple. Il y a X années, j'étais à un mariage d'une yeshiva qui se trouve à la limite des villages arabes à Jérusalem. Et les bachourim, ils dansaient au mariage et tous, ils avaient un pistolet, vous voyez? C'était mignon. C'est, il danse avec un pistolet. Voilà. Et Shabbat, dans ces villages, il faut avoir un pistolet. Pourquoi? Parce que c'est un risque pour la vie. Donc là, je ne parle pas de ça. Je parle, on est à Paris. On est à Paris. Vous allez dans votre synagogue habituelle. Est-ce que vous pouvez aller à votre synagogue avec un pistolet?
Non.
C'est, moi, je trouve ça beau avoir un pistolet. Ça fait viril. Ça fait, je sais pas, ça épate les filles. Non, excusez-moi. Ça fait viril, ça fait super. Ou alors un fusil là, en bandoulière pour faire beau, quoi. Je vais à l'école Beth Aharon. Mais pourquoi t'as un fusil? Je trouve que c'est beau. Alors, si c'est beau, c'est un tarchit. Donc, une décoration. Décoration, c'est permis Shabbat. Ça s'appelle, c'est comme un habit. Donc, je ne fais pas Otsa'a. Par contre, si ce n'est pas un tarchit, c'est pas un tarchit, donc je transgresse l'interdit de sortir quelque chose qui n'est pas un habit Shabbat. Les habits Shabbat, c'est secondaire par rapport à mon corps. Donc, ça ne s'appelle pas Otsa. Mais par exemple, je sors avec mon stylo Shabbat, c'est pas ça, c'est pas un habit, je fais Otsa. Voilà. Par contre, si c'est comme une parure, alors c'est annulé par rapport à moi. Alors, c'est ça ce que la Mishnah, elle dit. Un homme ne pourra pas sortir Shabbat avec une épée, pas avec un arc, pas avec un bouclier, pas avec une massue, pas avec une lance. Vim yatsa chayavata. S'il est sorti, il a transgressé Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, tarchiti den lo. Rabbi Eliezer est dit, non, c'est une décoration, c'est beau. Vous voyez, par exemple, vous savez qu'est-ce que c'est l'Académie française? Hein? À l'Académie française, eh bien, ils ont une épée. Ils ont une épée. C'est une décoration. Voilà. Donc Rabbi Eliezer est dit, c'est une décoration. Un académicien, il va à la synagogue Shabbat avec son épée. Il n'a pas fait autre ça. C'est bon. C'est un tarchi. Donc c'est le marloquette. Est-ce que c'est une décoration ou est-ce que c'est pas une décoration? Alors, Chachamim Omrim, les Chachamim disent, Enan Elanegnaï. Non, c'est laid. C'est honteux. C'est honteux les armes. Comme on voit dans le pasouk dans Ishayahu, Vechitotu Chachbotable Itim. Ils casseront leurs épées pour en faire des socs de charrues. Vechanitotehem, les mizmerot, et leurs lances, ils en feront des mizmerot pour couper les vignes. Donc on voit qu'à la fin des temps, les armes, il y aura plus de sens à ça. Il y aura plus de sens aux armes. Elles serviront à faire des choses d'agriculture qui sont de positifs. L'agriculture, ça apporte à tout le monde. Tu laboures le sol, tu permets à la terre de faire pousser des choses. Par contre, on n'utilisera plus les armes. Voilà. Alors maintenant, on passe à la Gemara. Donc, il y a
Maï Béala, c'est quoi? C'est Koulfa, c'est Allah, c'est un gourdin. Rabbi Yezer Oimer, Rabbi Yezer dire Tarchitin, ce sont des bijoux. Tania, Nberaïta va analyser le sujet. Amroulo, les Rabbi Yezer, ils ont dit à Rabbi Yezer. Alors, la Gemara, elle est un peu complexe, hein, comme toute Gemara. Vous connaissez l'histoire de celui qui dit « Je vais faire une Gemara simple ». Non, il y a des Gemara difficiles. Ce que j'aimerais, c'est faire une Gemara facile, vous voyez. Moi, mon expérience, je veux dire, ça fait pas mal de temps que j'étudie, que j'aime étudier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une Gemara simple. Là, il y en a qui disent, par exemple, avec mes élèves, à l'échevat des étudiants, on a étudié pendant presque 2 ans... Un chapitre hyper dur dans la Gemara s'appelle Cheskat Abatim, 3e chapitre de Baba Batra. J'ai vu les Talmidim, ils étaient KO. Alors j'aurais dit, regardez, on va faire quelque chose de dit. Surtout, il m'a dit, j'aimerais quelque chose qui a des incidences pratiques, parce que les lois d'argent, comme Baba Metzia, bon, il faut être Dayan pour voir l'incidence pratique. Je n'ai pas de problème, on va faire Brachot. Alors, c'est la tannée. Hyper dur. 3e chapitre de Brachot. C'est magnifique. Il y a plein de conséquences dans la halakha, mais c'est hyper dur. Chaque ligne, c'est un univers. Donc, une Gemara facile, j'en ai pas trouvé. Alors là, cette Gemara, elle est particulièrement complexe. Mais on va essayer de se débrouiller. On a toute la matinée, c'est bon. Hein? J'aime bien faire paniquer ceux qui organisent. Alors, ok, non, on va essayer de faire que ça soit faisable. Regardez. Rabbi Eliezer Oimer, tâche, Rabbi Eliezer, il dit, c'est des bijoux. Tania, on en sait. Amroulo les Rabbi Eliezer, on a dit à Rabbi Eliezer. Vechim arar de tâchitim en, mi plema en betelim le mot tamashiach. Si toi tu dis que c'est des bijoux, alors pourquoi le prophète Ishayahu dit que ces bijoux-là ne serviront plus au temps messianique. Amar Lahem, le fiche est nam tsririm, parce que ça ne servira à rien. Donc si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça n'a plus de sens. Il y aura chez Neymar, l'Oïssa goy, el goy cherev, voilà. Mais un peuple ne portera plus sur un autre d'épée, comme dit le prophète Ishaïa. Vita velenoi bealma, d'accord, mais si toi tu dis que c'est beau, c'est beau. Amar abaye, mide dave, ashraga betara. Non, c'est comme si tu prends une bougie en plein jour, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ça ne signifiera plus rien. Non, soit c'est beau. Regardez, essayons d'écouter. Rabbi Eliezer, il dit c'est beau. C'est-à-dire que, il y a quelque chose dans la guerre de beau. Les Chachamim disent, il y a quelque chose de beau dans la guerre. Chachamim disent, la guerre, il y a quelque chose d'honteux dans la guerre. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. C'est contradictoire. Comment ?
C'est contradictoire.
C'est une discussion. C'est-à-dire, c'est une discussion. Comment aborder la guerre ? Est-ce que il y a quelque chose de beau dans la guerre ? Ou il y a quelque chose d'honteux dans la guerre ? Qu'est-ce que vous pensez, vous ?
Ça dépend du point de vue.
Oui, d'accord, mais...
Il y a des choses horribles comme la mort et le versement du sang, et des choses beaux comme sauver des personnes. Et...
Conquête.
Comment ?
Non, il y a aussi des choses belles, la conquête des nouvelles terres.
Ouais, et, oui.
Israël, c'est quand même... on doit trouver ça quand même beau, vu qu'on a quand même conquéri Israël par la guerre.
Oui, oui, ça c'est bien. On voit que Yehoshua, à l'époque d'Yehoshua, c'était une mitzvah de conquérir la terre. Donc il n'y a pas une mitzvah qui en soi est laide.
Voilà ça. En vrai, c'est les deux. C'est honteux ce que fait l'adversaire et c'est beau ce que fait le répondant.
Ah. Ouais, ça c'est un peu... C'est comment dire, c'est... Ça, tu m'as pas convaincu vraiment, quoi. C'est, ouais, on a toujours raison, les autres c'est des salauds. C'est vrai, à part ça. À part ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment objectif. Oui, tu veux dire
Selon Rabbi Eliezer, il dit que c'est beau d'avoir des armes. C'est vrai que manier des armes, manier des épées, tout ça, ça peut être classe, des trucs chevaleresques.
Oui.
Mais après, c'est sûr qu'il y a, surtout un côté horrible dans la guerre.
Ah, voilà, vous voyez, c'est vraiment... mais ce que tu dis chevaleresque, on va voir dans Rambam, il va analyser ça. Il y a quelque chose, je redirai en d'autres termes, dans la guerre, il y a le meilleur de l'homme qui peut sortir. Il y a l'héroïsme. Hein, le chevalier au Moyen-Âge, c'était l'élite. Maintenant, de l'autre côté, il y a le pire, il y a le meilleur et il y a le pire. Maintenant, alariquement, comment aborder la chose, tu veux dire? Non? Oui?
Bah, aussi, ça rapproche les gens, la guerre.
C'est vrai. L'adversité pousse l'être humain dans le pire et des fois dans le meilleur. Et on voit effectivement en Eretz Israël, et pas seulement en Eretz Israël, même ici en France, une énorme solidarité. C'est ambigu, vous voyez. Parce que quand il y a la paix, on s'endort. On sait quoi quand il y a la paix, c'est quoi le but de la vie. Bon, dis-moi, ce soir, on mange des sushis ou une pizza? Non, ouais, ça veut dire, vous voyez, c'est un peu limité comme envergure, quoi. Parce que là, tu dois sauver des vies. Tu dois sauver des vies. Donc, il y a un côté beau, un côté horrible. Alors, dans la culture occidentale, ils n'arrivent pas à vivre dans les paradoxes. Il y a un de mes maîtres, j'ai entendu Ram Nosson Shulman, pour les connaisseurs, Ram Nosson Shulman, lui disait que la réflexion, elle commence avec le paradoxe. C'est-à-dire, on commence à réfléchir qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Quand tout va ensemble, par exemple, en français, on dit, voilà, la guerre c'est horrible. Oh, la guerre c'est horrible, c'est horrible. Ouais, d'accord. Mais t'as rien dit en disant c'est horrible. Des fois, il faut le faire. Il faut le faire. Et comme tu as dit, Yoshua, il avait une mitzvah de conquérir la terre. Et c'est écrit dans le verset, Lo techaye kon neshama, laisse vivre aucun cananéen. Donc, on est dans un paradoxe. D'un côté, c'est horrible. D'un autre côté, la Torah nous force parfois à faire de la guerre. Et ça, c'est ça le débat. C'est laid ou c'est beau? C'est horrible ou c'est magnifique? Prenons par exemple, vous voyez, à mon époque, je ne sais pas quand c'était à mon époque, hein, ça fait... quand j'étais à l'école, j'étais un peu à l'école, ici, on apprenait Napoléon. Napoléon, c'est que des guerres. Napoléon, c'était la grande vedette. Aujourd'hui, les Français, ils détestent Napoléon. Ils disent, Napoléon, il n'a fait que des guerres, c'est horrible. Ouais. Mais c'était un génie de la guerre. Même dans la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu des batailles, mais incroyables. Par exemple, la bataille de Stalingrad. Il y a un livre, un chef-d'œuvre que je vous conseille, si vous aimez lire, Ça s'appelle « Vie et destin » d'un auteur juif qui s'appelait Vassili Grossman. Un livre de 800 pages. « Vie et destin », c'est sur la bataille de Stalingrad. Alors, quand tu lis ce livre, tu es dans la bataille de Stalingrad. Et tu vois, il met en relief que quand ils étaient en train de se battre à Stalingrad, il y avait des fois le meilleur de l'être humain qui ressortait. Il faut pousser l'être humain dans ses retranchements et il y a le meilleur qui ressort. Donc, c'est délicat. Continuons. Donc, suspense. Est-ce qu'au temps messianique, il y aura encore la guerre ou pas la guerre? Jusqu'au moment, jusque-là, il n'y aura pas la guerre. Monsieur?
Puisque la guerre, le bon moment de la guerre, c'est-à-dire tous ces trucs qu'on peut les terres et tout, ça arrive après un moment qui est mauvais, par exemple une guerre, ça arrive toujours parce qu'on se fait attaquer. On s'est attaqué, donc c'est comme la personne se fait attaquer, c'est une action qui est mauvaise. Donc si ça arrive d'une action mauvaise, tout ce qui est après, c'est une perte, c'est pas considéré comme gagné.
Y a pas de j'ai compris, mais c'est pas vraiment ça. Il y a des guerres positives en tant que telles. Par exemple, quand il y aura le Machiar, il faudra exterminer Amalek. Amalek, il est tranquille. Amalek, il est là en train de manger sa glace au chocolat.
Mais c'est-à-dire que c'est nous, on va en tuer. Oui. Ah, c'est pas eux qui commencent à.
Non, non.
Ah, okay. Et ça, c'est une bonne guerre. Ça.
Ouais. Il est tranquille chez lui, en train de jouer, je sais pas moi, aux cartes. T'arrives. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah. Ah. On continue. Ok, oui. Vous attendiez pas là, lundi, mardi, 9h du matin, moi non plus. Je veux dire.
On va faire la guerre contre qui ?
Comment ?
Si on fait la guerre, on fait la guerre contre qui ?
Bah, je t'ai déjà dit par rapport à Amalek par exemple.
Bah, Amalek.
Comme on saura, il y aura des prophètes. À l'époque du Machiav, il y aura des prophètes. Bah, celui-là c'est un Amalécite, celui-là c'est un Amalécite, c'est un Amalécite.
Mais après. Ça, c'est une partie, mais c'est pas
pour
toujours.
Non. Bon, regardez, on va continuer, d'accord. On va continuer.
C'est Marc-Otel.
Comment ?
C'est Marc-Otel.
Si.
Si il y aura une guerre,
c'est le sujet. On continue. Alors, pour le moment, Rabbi Eliezer Rabbanan disent que à l'époque du Mashiach, il n'y aura plus de guerre. Pourquoi ? Ils demandent à Rabbi Eliezer, je reprends le raisonnement de la Gemara. Il demande à Rabbi Eliezer, mais alors d'après toi, si tu dis que les armes, c'est quelque chose de très beau, c'est un bijou, c'est une décoration, alors comment ça se fait que le pasouk dit « Lo issa goy el goy cherev » Il dit parce que ça ne sera plus une décoration, parce que ça ne servira plus à rien. Mais en soi, c'est une décoration. Donc, d'après lui, il n'y aura plus de guerre. Continuons. Et la Gemara dit « Ou pliga des Shmuel » Ces deux avis, c'est contre l'avis de Shmuel, grand maître de la Gemara, d'Amar Shmuel, que Shmuel dit En ben haolam haze limot ha-mashiach ela shabun malchuyot bilvad. Il y a de différence entre l'époque actuelle et l'époque du Mashiach que l'asservissement des nations. Et comment on voit que le monde continuera son cours? Comme dit le verset, Kilo Yerdal Evion Mekerev Aretz, que il ne s'arrêtera pas les pauvres du sein de la terre. Il y a un passou qui dit Kilo Yerdal Evion Mekerev Aretz, il y aura toujours des pauvres. Donc ça veut dire au temps du Mashiach, la réalité du monde suivra son cours. Le monde suivra son cours. À notre époque, il y a des guerres. Il y aura toujours des guerres. Donc, ce que nous voyons ici une discussion. La Braïta dit qu'au temps messianique, il n'y aura plus de guerre, mais ça va contre l'avis de Shmuel qui dit Lo Yerdal Evion Mekerev Aretz, qu'à l'époque du Mashiach, le monde suivra son cours. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des barbares, comme on l'a constaté, des hommes de Néandertal. Il y aura encore des barbares à l'époque du temps messianique. Donc c'est le Marloquet. Pliga des Shmuel. Continuons. Mesayele, les Rabbi Chia Baraba, d'Amar Rabbi Chia Baraba, Kol Anevim, Lonit Navu, Ela Lemot Amashiach, Ava Leolamaba, Inorata, Elokim Zulatera. Donc la Beraïta, elle va comme Rabbi Abba. Au nom de Rabbi Chia Baraba, que les prophètes ont prophétisé pour l'époque du Mashiach. Mais pas pour les temps messianiques, les Olam Haba. Pour Olam Haba, ça sera encore autre chose. Olam Haba, c'est un monde complètement différent. D'après Rambam et d'après le Maharal de Prague, Olam Haba, le monde qu'on connaît, sera complètement transfiguré. Il y aura une transformation complète de la réalité du monde. Ça, c'est Olam Haba. D'après Ramban, Olam Haba, c'est Triat HaMetim. D'après Rambam et le Maharal de Prague, le monde matériel sera désintégré. ça sera que le monde des Neshamot. C'est un grand débat, qu'est-ce que c'est Olamaba. Mais Rabbi Chiya Bar Abba lui dit que les prophètes qui ont dit qu'il n'y aura plus de guerre, etc., ça sera les mots à Machia, il n'y aura plus de guerre et les mots à Machia. Ça c'est le premier avis, et Shmuel est contre. Continuons. Ika de Amré, il y en a qui disent. Il y en a qui disent. Amroulo, les Rabbi Eliezer, on a dit à Rabbi Eliezer. Vechi me'achar de tachitim en lo, mipnema en betelil mot amashiach. Si, il y a une autre version de la Beraita. Ils ont dit à Rabbi Eliezer, étant donné que toi tu dis que c'est des bijoux, pourquoi alors les armes, on arrêtera les armes au temps du Mashiach? Amar lahem af les mots à Mashiach enam betelim. Même au temps Mashiach, on utilisera encore les armes. C'est pour ça, les armes, ça sera encore des bijoux à l'époque du Mashiach. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Une petite seconde. Voilà. À nous des Shmuel, ce qui va d'après l'opinion de Shmuel, qui dit En ben olamazé les mots à Mashiach, et là, Shaboul Malruyot Bilvad, ou Pliga de Rabbi Abba, de Rabbi Chiya Bar Abba, ce qui va contre la vie de Chiya Bar Abba. Rashi explique qu'à l'époque du Mashiach, les choses continueront leur cours, il y aura encore des actes de barbarie, il y aura encore des clochards, des SDF, et ce que les prophètes ont parlé, c'est à Olam Haba, mais pas Yemot HaMashiach. C'est comment la halakha? Suspense. La halakha, Rambam, à la fin du Mishneh Torah, tranche comme Shmuel. En ben olam hazé, le olam haba, et là, les mots tamash. Et là, Shaboul Malchuyot Bilbal, le monde continuera son cours. Alors c'est quoi? C'est quoi le Mashiach? Bon, ça c'est une grande question. Qu'est-ce qui va apporter le Mashiach? Mais, d'après la démarche qui ressort de la Gemara et de Rambam, on est possèque comme Shmuel, et il y aura encore des guerres. Alors j'aimerais là maintenant passer à un deuxième aspect de notre étude, c'est Rambam qui nous explique qu'est-ce que c'est la guerre. Alors, tu voulais dire? Oui, alors, je vous passe des photocopies. Bien. Alors, aujourd'hui, vous savez, on est dans une situation terrible. Personnellement, j'ai un petit-fils qui est dans l'armée israélienne. Et beaucoup ont des proches qui sont dans l'armée. Et il y a un éveil, moi je ne suis pas en Israël, mais d'après ce que j'entends, en Israël, il y a des religieux, il y a beaucoup qui ne sont pas religieux. Mais de manière générale, il y a un éveil intérieur juif parmi la population en Israël actuellement, et en particulier parmi les soldats. Et ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup des soldats, par exemple, il y a un neveu de M. Goldfarstein qui est là-bas, qui, quand il est parti il y a un mois en autocar avec ses camarades au combat, enfin, il n'a pas été tout de suite au combat, quand ils sont partis vers Gaza, il a envoyé une petite vidéo de l'autocar où ils étaient, qui partaient. On a pleuré, on a vu cette vidéo, on a pleuré complètement, parce que c'est des petits mignons qui partent, c'est pas des brutes. Bon, ils savent se battre, ils ont appris, ils apprennent. J'ai parlé avec mon petit-fils, il dit on s'entraîne, mais même mon petit-fils, c'est un petit mignon comme vous, je veux dire, C'est un... c'est pas une brute, c'est un petit mignon. Il, du soir au matin, il apprend à se battre et veut se battre. Et c'est des petits mignons, c'est des petits juifs, des petits... On dit le pasouk qui dit « Son Kodashim ». On dit « On est comme des moutons ». On est comme des moutons, on est des petits moutons, on n'est pas des bêtes sauvages. Mais quand on part à la guerre, on part à la guerre. Et Rambam va nous expliquer, il y a des lois, comment faire la guerre. De la même manière qu'il y a des halachot netilat yadaim, vous avez entendu parler halachot netilat yadaim ? Oui. Alors on va faire là maintenant des halachot, comment faire la guerre. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs mitzvot relatives à la guerre. Comment faire la guerre ? Alors, c'est écrit dans le Passouk que quand ils vont partir à la guerre, une guerre qui a été définie, qu'il faut faire cette guerre. Il y a plusieurs types de guerres. Et vous l'avez dit très bien, que la guerre principale, c'est la guerre défensive pour sauver le peuple juif des ennemis qui nous attaquent. Des ennemis nous attaquent, se défendre, c'est une mitzvah indubitablement. Maintenant, on nomme un Kohen Gadol qui s'appelle Mashua Milchama. En français, on appellerait l'aumônier des armées. Et il fait un discours avant de partir. Un discours avant de partir. D'abord, il leur dit, on dit tout Shema Israël. D'ailleurs, c'est impressionnant. Beaucoup, là, on voit dans les vidéos qu'on reçoit beaucoup dit Shema Israël avant de partir à la guerre. Maintenant, il dit aussi, celui qui a peur, qui rentre chez lui. T'as peur ? On n'a pas besoin de toi. Alors, il y en a beaucoup, ils vont rentrer. Alors, c'est ça ce que Rambam dit. Regardez, c'est le Perek 7 d'Alachot Melachim Alachat Tedva. On va lire et traduire Rambam. C'est sublime, comme il dit. C'est incroyable comment il a écrit, comme vous allez voir. Mi Aish Ayare Verar Aleva. Quand le Kohen Gadol dit l'homme qui a peur et qui a le prendre au sens simple, celui qui a peur, qui a le cœur tendre, qui rentre chez lui. Chez En Belibo Kohar, la mode Bekishere Amilchama, on parle de la personne qui n'a pas le cœur, qui n'a pas la force de tenir au corps à corps. Bekishere Amilchama, c'est comme on entend aujourd'hui qu'il faut. Certains font la guerre au corps à corps. Une guerre au corps à corps. Se battre au corps à corps. Quelqu'un qui n'a pas la force, mais qui serait milchama, que tu es au front, t'as peur, dégage. Mais arrache et ikanes, mais qui serait milchama, s'il a accepté et qu'il avance, à partir du moment où il est au front, il chaen al migve Israël au moshio. Qui mette. Qu'il appuie sa confiance sur Dieu, Mikvé Israël. Il appelle Dieu Mikvé Israël. C'est quoi le sens de Mikvé ? On sait un Mikvé, c'est un bain rituel. Mais la traduction du mot Mikvé, c'est dans le sens de Tikva, qui veut dire l'espérance. Il s'appuie sur l'espérance d'Israël, qui est Dieu, et au Moshio, et c'est Dieu qui nous fait gagner la guerre. Betsara, Moshio Betsara, celui qui nous sauve dans les périodes de détresse. Veyeda, il faut qu'il sache, on parle de soldat qui part au front, Shalihud Hashem Ose Milchama, c'est sur l'unité de Dieu qu'il fait la guerre. Si c'est une guerre de mitzvah, c'est comme nous quand on met les téfilines. On met les téfilines, on ne met pas les téfilines parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On met les téfilines, c'est pas parce que ça nous gratte ici. On met les téfilines parce que c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. On se lie, les téfilines, on se lie avec Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. Toi, tu es l'expression, le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais tu es uni avec Akadosh Baruch Hu. C'est à l'Yichud Hashem ou à Semilchama. C'est l'unité de Dieu qui fait la guerre. Veyassim nafsho bechapo. Il met son cœur sur sa main. Velo yera velo iparet. Qui n'ait pas peur, qui ne tremble pas. Velo Yarchov, Lo Beishto, Velo Bebanav, qui ne pense ni à sa femme, ni à ses enfants, et là, Imache Zichom Elibo, qu'il efface leur souvenir de son cœur, Ve Ifne Mikol Dava, et qu'il soit disponible que à la guerre. Donc vous voyez ici que c'est une mitzvah très difficile. Il faut comprendre que la guerre, c'est pas simplement je suis une brute. Ouais, je veux buter des Arabes. Ouais, où est-ce qu'ils sont les bicous? Paf, paf, paf. Non, c'est pas ça. Non, c'est peut-être ça. Mais c'est une mitzvah. Tu fais ça parce que tu es osek be mitzvah. Tu es osek be mitzvah. Tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a des halachot. Tu as, on va voir, Rambam dit, il y a combien d'interdits dans la Torah? Combien d'interdits dans la Torah? Nous 365. Avantage à ma gauche. Il y a 365 interdits. Regardez, très bien. Regardez la suite. Vekolamatril l'archov. Toute personne qui commence à avoir des pensées, ou le harerbe milchama, avoir des arrière-pensées à la guerre, au mavilasmo, toute, regardez ce que dit Rambam, toute personne, mavilasmo, qui panique, une personne qui, au front, panique, panique, au verbe elotase, il transgresse un interdit de la Torah. Chez Neymar, al yerar levavrem, al tiraou, al tarpezou, al teartsou mipneem. Donc ici, Maïmonide nous dit un chidouche atsoum. C'est que quand tu pars à la guerre, quand tu es à la guerre, c'est un interdit de la Torah d'avoir peur et de paniquer. Quelqu'un, il panique, hein, il transgresse un interdit. Ça veut dire, c'est comme s'il mangeait du jambon. Et quelqu'un dit, je suis religieux, moi, mais j'ai peur. J'ai peur. Alors, ta peur reste chez toi. Mais si une fois que tu es au front, c'est un interdit de la Torah. Il transgresse un interdit. Je relis ça. Rabotai, c'est un chidouch atsoum. Au verbe elotase chez Neymar, Alira le Bafrem, que votre cœur n'ait pas peur, Al Tiraou, n'ayez pas peur, Al Tarpezou, ne tremblez pas, Val Tarsou, mes pneus, ne paniquez pas devant eux. Évidemment que les ennemis, ce sont des brutes, ce n'est pas des petits moutons comme nous, ce sont des brutes, ce sont des bêtes sauvages, ce sont des bêtes sauvages, ce sont des néandertaliens. C'est ce qu'ils ont fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est pas des Ménadam. Ce qu'ils ont fait, on est des Néandertaliens. Quel rapport? Ça fait peur. C'est leur cruauté. On n'a pas ça, nous, dans nos familles, on n'a pas cette cruauté. Eh bien, à raison, tu aurais peur. L'otasim, c'est un interdit de la Torah de paniquer. Interdit de la Torah de paniquer. Veloot, et pas seulement ça. Et la shekol de Mei Israël, Teluim Betsabaro, il faut qu'ils comprennent que le sang du peuple juif dépend de lui. Quand il est en train de sauver le peuple juif, tout dépend de lui. Vemlo Netzar, Veloasa Milchama Bechol Libo Bechol Nafsho, si il n'a pas gagné, regardez ici, s'il n'a pas gagné. Ben, des fois, on ne gagne pas. Tu dois gagner! Tu dois gagner. Obligation de gagner. Obligation de gagner. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils disent en Israël. On doit gagner. Obligation de gagner. S'il n'a pas gagné et il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur, toute son âme, c'est comme s'il avait versé le sang de tout le monde. Chez Neymar, comme dit le verset, Velo imas et le vav et rav qu'il va vaut, qui ne liquéfie pas le cœur de ses frères comme son cœur. Aré me fourrage Bekabala, regardez, c'est très très important, regardez, c'est explicite dans la tradition. Arou rosé milchemet, Melechet Hashem Remia, que soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu de manière fourbe, c'est-à-dire celui qui fait les mitzvot, mais pas avec tout son cœur. Arur Monea Harbo Medam, que soit maudit celui qui s'empêche de verser du sang. Donc vous voyez ici que Rambam, notre grand maître Rambam, nous dit que dans des circonstances extrêmes, c'est une avodat Hashem, de verser le sang des ennemis. C'est-à-dire, c'est de la même manière que faire le loulav, de la même manière que faire birkat Amazon, que de la même manière que mettre des tzitzit, qu'étudier la Torah, quand on est à la guerre, c'est une avodat Hashem, et pas seulement, tout de suite mon ami, pas seulement c'est une avodat Hashem, regardez ce qu'il dit dans la suite. Vekol aninham, bechol libo belo pachad. Et tout celui qui fait la guerre avec tout son cœur, sans peur, et son intention, les kadesh et Hashem bilba, de sanctifier le nom de Dieu. Donc ici, il y a, Maïmonide nous dit encore un grand chidouche. C'est que faire la guerre en tant que mitzvah, c'est un kidouche Hashem. Pourquoi c'est un kidouche Hashem? Il me semble, parce qu'on exprime que c'est pas nous qui faisons la guerre, mais c'est Hashem, Ish Milchama, c'est Akadosh Baruch Hu. On est là pour donner la place à Akadosh Baruch Hu d'agir. On sanctifie le nom de Dieu. Oui, tu voulais dire. Eh bien, c'est interdit d'abord.
C'est possible, une guerre, c'est obligé d'avoir peur. C'est pas de mourir. On ne peut pas être comme on est ici, on ne peut pas être là-bas.
Alors, regardez, moi je travaille beaucoup actuellement, depuis des années. J'aime bien écrire des livres, j'aime écrire. Et Baruch Hashem, j'ai déjà écrit 4 livres. Je suis en train d'écrire un 5e livre depuis plusieurs années sur Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, il y a une mitzvah dans la Torah de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire que percevoir que je suis entièrement proche d'Akadosh Baruch Hu. Je suis dans une proximité intense avec Akadosh Baruch Hu et je ne me fais pas de soucis. Le Maharal de Prague, il dit la chose suivante, pour essayer de comprendre ce que tu dis. Comment c'est ton nom? David. Ce que dit David. Shabbat dernier, on a lu Parashat Vayera. Et dans Parashat Vayera, il y a la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak. Le Pasuk dit qu'Avram veivaka atse ola. Avram a fondu du bois pour le ola. Hachem a dit à Avram, prends ton fils et offre-le en Ola. Offre-le en Ola. C'était une catastrophe. Comment Avram, il avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Dieu a dit, je te donnerai descendance de Sarah. Et cet enfant, c'est lui qui divulguera le nom de Dieu à l'humanité. Cet enfant, il est... C'est écrit, il a fait Mishte Gadol, il a fait quand il est Beyom Igamel et Yitzhak, il a fait une grande Seouda. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire une grande Seouda? Est-ce que ça veut dire il les a éclatés? Qu'est-ce que ça veut dire il a fait une grande Seouda? Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, il a invité les grands de l'époque, Shem, le fils de Noar, il a invité Avimeler, les grandes personnalités, ils étaient là, les Gdoléador étaient là, ils ont vu ce bébé. Ils ont vu que la promesse d'Hachem qu'Avram aurait dans ses vieux jours un fils de Sarah s'est concrétisée. Cet enfant grandit et Hachem lui dit, offre-le-moi à Ola. Qu'est-ce qu'il fait Avram? Vivaka atse Ola. Le Midrash dit, c'est par le Zrout qu'il a fendu du bois pour les Ola que les eaux de la mer Rouge se sont fendues. Explique le Maharal, c'est quoi un korban Ola? Pourquoi au Beth Amigdash on offre un korban le matin? On offre korban Ola Baboker, Ola Ben Arbaim, korban Tamid. C'est quoi le korban Ola? Explique le Maharal Ola, qui est entièrement brûlé sur le Mizbéa. ça exprime que toute notre réalité, elle est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, moi j'explique, vous savez, dans la prière, dans la tefila, Shacharit Mincha, ça correspond au Ola du matin, au Ola de l'après-midi. Moi, quand je fais la tefila, j'ai toujours plein de pensées qui me tombent dans la tête. Peut-être je suis le seul. Non, ça vous arrive, vous, d'avoir des pensées pendant la tefila? Quoi? En vérité, la plupart des gens, c'est tout le temps. Ne me racontez pas des salades. C'est tout le temps, on pense à 36 000 choses quand on fait la tefila. L'explication est la suivante. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à se connecter avec Hachem. Nous, on croit que c'est nous dans la vie qui allons nous débrouiller. Donc on pense, ah oui, j'ai une interro de maths à 10h15, et ah oui, j'ai pas bien révisé mon exercice, etc. Oh là là, quelle note je vais avoir? Là, c'est dans le chemonesserie, tu vois. Tu penses à ça. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est toi qui te débrouilles dans la vie. La tfila, elle est à la place d'un korban hola, c'est-à-dire tu es entièrement, comme le hola est brûlé sur le misbéar, tu es entièrement dans la main d'Hachem. Et je réponds à la question de David. Pourquoi Maïmonide nous dit, celui qui a la guerre, Bechol Libo, s'il fait la guerre, Bechol Libo, il me kadesh et Hachem, il sanctifie le nom de Dieu. Parce qu'il est en train d'exprimer qu'il est entièrement dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu, il ne se fait pas de soucis. Comme dans la prière. La prière, j'arrive pas à m'enlever de mes soucis, de mes pensées, parce que j'ai aucun contact avec Akadosh Baruch Hu. La prière, je dois me connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça correspond à Korban Ola. Quand je suis à la guerre, je dois me connecter avec Akadosh Baruch Hu d'une proximité, je ne me fais pas de soucis. Même à la limite, je meurs, c'est pas grave. Ah, c'est dommage, je devais aller au resto avec mes copains demain soir. Bon ben, j'irai pas, hein, je suis mort. On trouvera une solution. Hein. C'est pas grave. Je suis mort. Hein. C'est pas grave. On meurt. Hein. Ah, je meurs à la guerre, c'est pas grave. Ah, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le verset dit, Hachem, il est avi et tomim. Il s'occupe des orphelins. Oh, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah, ma femme, oh, elle se remariera. Pas grave.
C'est bizarre de penser comme ça.
C'est bizarre, je suis d'accord avec toi. C'est très bizarre. Voilà, regardez, on a vu des choses très, 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 très importantes. On voit ici, donc, tout de suite, hein, on voit ici, bon Hachem, on a vu ensemble en quelques minutes. On a vu ensemble.
Ouais.
C'est pas l'heure, ça.
2 minutes d'heure.
Comment?
2 minutes d'heure.
Ouais. On a vu en quelques minutes des choses très importantes. Que Rambam nous dit que partir à la guerre, faire la guerre, dans les conditions que la Torah nous enseigne, c'est une mitzvah supérieure. C'est une avodat Hashem, c'est un service de Dieu supérieur. Pas seulement c'est un service de Dieu, c'est un kiddush Hashem. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a des jeunes et moins jeunes qui aujourd'hui font la guerre. Et je suis convaincu qu'eux, ils vivent les choses dans ces conditions. Pas tous, évidemment, parce que ça demande d'être vraiment tzadik. Mais on dit, mais amer kulam tzadikim, ton peuple, c'est tous des tzadikim. Même tu as des gens qui ne sont pas religieux, mais dans leur fond, ils sont des tzadikim. Il y a des gens complètement laïcs en Israël, je suis en contact avec eux. Ils habitent dans un kibbutz près de Netanya. Alors, pas du tout religieux, hein, pas religieux du tout. Et avant-hier, je leur ai envoyé un message pour savoir comment ils vont. Près de Netanya, donc il y a des missiles qui viennent, machin, et c'est des gens de mon âge, ils doivent avoir des enfants, des petits-enfants qui sont à l'armée. Donc je leur ai demandé comment ça se passe. Eux, ils m'ont dit, entre autres, que eux, dans leur kibbutz, ils reçoivent plein de gens du Nord qui sont partis de chez eux du nord et des gens du sud, ils les hébergent chez eux. C'est sublime. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils ont des petits apparts, ils reçoivent des gens chez eux, ils se poussent pour héberger des gens, pour les nourrir, pour les vêtir, pour qu'ils soient contents, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient les apaisés de parce que peut-être leurs maisons vont être détruites, etc. Quelle grandeur, quelle grandeur, quelle hardoute. Ça, c'est Amer Kulab Sadikim. Donc pour nous, la guerre, dans certaines conditions, bien évidemment, c'est un niveau supérieur de la Avodat Hashem et ce qui explique la Chita de Rabbi Eliezer. Oui, monsieur.
Vous avez dit que c'est une idée de faire couler le sang des animaux.
Dans ce contexte, dans ce contexte.
Oui, quand on voit un exemple les vidéos où il y a des terroristes arabes qui sont mourants et qu'après les réalim ils montrent sur les réseaux sociaux que il les frappe, il les maltraite. Ça c'est cruel.
Il y a deux choses dans ce que tu dis. D'ailleurs, je te déconseille de regarder ces vidéos.
Non,
je te déconseille. Moi, je regarde pas. Parce que je veux garder le moral, je veux rester joyeux et pas déprimé, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir de rahmanout, d'avoir de la pitié par rapport à ces rechaïm. Alors, c'est sûr que les Arabes, c'est des gdoléadors dans la propagande, ils montent tout ça, etc. Ils adorent manipuler les gens avec ces horreurs. Mais d'ailleurs, si on met à plat la situation, c'est s'ils rendaient les otages, bon maintenant c'est trop tard, mais s'ils rendaient les otages, eux, en vérité, ils assument que leur pays soit foutu en l'air parce qu'ils ont pris les otages. Tu rends les otages, ton pays il n'est pas foutu en l'air. Je veux dire, c'est comment avoir pitié de gens comme ça ? Je veux dire, c'est absurde. C'est assourd, les Rachem Alem. Interdit d'avoir pitié d'eux. C'est interdit.
La preuve qu'il ne faut pas avoir de pitié, c'est Shaul, il a eu de la pitié pour des animaux.
Pour des rochers, oui. Absolument. Absolument. Ok. Bon, regardez les amis, on a vu des belles choses ensemble, que ça nous donne du chizouk, et Bezrat Hashem... plein de bonnes choses, et quelqu'un, je vous envoie la Yeshua Bekarov, et que tous ces événements, on n'y comprend rien, amen. Que soit ça, ni ta faire, les Tova, et que le Ham Israël se ressaisisse, parce que, qu'on se ressaisisse, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dissensions dans le Ham Israël, énormément en Israël, beaucoup de haine, et qu'on puisse surmonter ça, et qu'il y ait de la Yedidout, qui est de la Ava, Ve'avta l'Erecha Kamocha.
Amen.
Amen. Amen.